Moteur, moteur, moteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans Un soir un film, votre émission cinéma sur Radio MDM. Je suis Fred, votre hôte pour cette demi-heure, et pour m'accompagner à la technique, nous avons Arnaud. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2025, remplie de bonnes choses, de la réussite, du bonheur et de la découverte. Et dans mon cas, j'espère que cette découverte sera plutôt cinématographique. Dans cette émission, nous allons parler d'un genre souvent pris de haut et souvent relégué au monde de l'enfance, celui du film d'animation. Pourtant, comme le western, ce genre est aussi vieux que le cinéma lui-même. Le premier film d'animation, datant de 1906, réalisé par Stuart Blackton et s'intitulant Humorous Phases of Funny Faces, petit court-métrage d'humour réalisé entièrement en stop-motion. La stop-motion consistant à photographier image par image un dessin modifié légèrement à chaque fois, et d'ensuite coller au montage chacune de ces images pour donner l'impression du mouvement. Cette révolution technique a permis une révolution artistique, le dessin permettant de donner forme et de mettre en scène n'importe quelle idée, aussi farfelue ou fantastique soit-elle, sans aucune contrainte matérielle. D'où cette relégation du cinéma d'animation à un style pour enfants, le monde des enfants nous apparaissant comme absurde et onirique. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de 4 films d'animation que je trouve vraiment bien, et prouvant que ce genre fait partie des grands du 7e art. On commence avec Interstellar 5555, un film de 2003 réalisé par Leiji Matsumoto en partenariat avec Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo. Ces noms ne vous disent peut-être rien, et pourtant, vous les connaissez très bien. Alors les deux derniers sûrement plus que le premier. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo formant l'ancien duo des Daft Punk, et Leiji Matsumoto étant le créateur des mangas Détective Conan et Albator le Corsaire de l'Espace. Le film est un peu particulier, puisque celui-ci ne possède aucun dialogue, et met en scène l'album Discovery des Daft Punk. Dans ce film, nous voyons un groupe de musique composé d'extraterrestres humanoïdes bleus se faire enlever par un humain, avec pour but de les amener sur Terre, les faire passer pour des humains, et ainsi rafler tous les disques d'or dans une quête de pouvoir obscur. En parallèle de ça, nous voyons un autre extraterrestre bleu, ressemblant trait pour trait à Albator, le cache-œil en mince, tentant de leur porter secours, et de faire revenir la mémoire des musiciens, ces derniers s'étant fait effacer leurs souvenirs par le kidnappeur. Le film est extrêmement simple à cause de son absence de dialogue, mais est très facile à regarder et à comprendre. La mise en scène de Matsumoto étant impeccable, quoiqu'un peu rétro, et la musique des Daft Punk aidant vraiment à donner l'ambiance aux images. Par exemple, Aérodynamique, second morceau de Discovery, accompagne la scène du rapt du groupe par des sortes de ninjas de l'espace avec des masques à gaz, ils ont la méga classe au passage. Cette scène étant plutôt portée sur l'action, le morceau électrique est très percussif, raconte très bien l'urgence et la gravité de la situation. Pareil pour la transformation du groupe en humain, avec en fond, harder, better, faster, stronger, plus fort, plus vite, plus mieux, un peu ce que cherche à faire le sinistre personnage qui a enlevé le groupe. Sinistre personnage qui personnellement me fait penser à Phil Spector, un génie de la musique contemporaine, mais aussi un des plus grands malades que l'industrie musicale n'ait jamais porté. D'ailleurs, le film amène avec lui une petite critique de l'industrie musicale, courant après la gloire et le succès au détriment du bien-être physique et moral des artistes. Critique que je trouve pour ma part un peu hypocrite, les Daft Punk étant enfants de grands pontes de l'industrie musicale qui ont bien profité de ce star system. Néanmoins, le film est vraiment très cool comme divertissement, surtout si vous aimez l'animation un peu rétro des années 80, et que dire de l'accompagnement, Discovery étant un des meilleurs albums des Daft Punk, c'est vraiment une occasion de le redécouvrir différemment. Et par ailleurs, le film est disponible à la médiathèque du Marsan si vous souhaitez l'emprunter. Et pour la pause musicale, j'ai décidé de vous mettre un morceau du légendaire album Alive 2007 des Daft Punk, la fusion entre One More Time et Aérodynamique. C'était One More Time Aérodynamique du légendaire live des Daft Punk à Coachella, et vous êtes toujours dans Un soir un film sur Radio MDM. On va continuer notre lancée sur les films sans dialogue avec La Tortue Rouge, un super film belge sorti en 2016 et réalisé par Michael Dubock-de-Witt. Ce film nous raconte l'histoire d'un homme faisant naufrage sur une île tropicale et désertée des humains, et de sa rencontre avec une tortue rouge immense l'empêchant de quitter cette île. De colère, l'homme décide de tuer la tortue, puis pris de remords, tente de la sauver. En vain. Puis, par on ne sait quelle magie, ce cadavre de tortue se transforme en femme rousse dont le naufragé tombe amoureux, et de cet amour naît un enfant. Ce fabuleux conte écologique nous montre la beauté du monde vivant, faune comme flore. Avec un récit simple et pourtant très efficace, nous voyons toute la beauté dans la nature cyclique des choses, la naissance, la vie, la mort. Sans un mot, nous voyons ces trois personnages évoluer comme n'importe quel humain évoluerait au sein de la famille. L'idylle amoureuse des parents au début, la découverte du monde par l'enfant, puis arriver à l'adolescence et l'âge adulte, son souhait de les quitter pour à son tour vivre sa propre vie. Et enfin, la mort de vieillesse des membres du couple. Sans pathos et mièvrerie, on nous montre la fin, mais toujours accompagnée par la renaissance. Comme quand un tsunami ravage l'île, détruisant entièrement la forêt de bambou qu'elle abrite. Et deux plans après la catastrophe, on voit déjà les jeunes pousses en train de remonter vers le ciel. C'est un super film à montrer à des enfants, leur expliquant avec une grande beauté l'aspect parfois implacable de la nature. Le film est accompagné par une bande-son absolument magnifique et très onirique, orchestrée par Laurence Pérez Delmar. Je vous encourage vivement à regarder ce film, et à le faire avec vos enfants, si vous en avez. D'autant plus que le film est disponible à la médiathèque du Marsan. Et pour notre pause musicale, je vous laisse avec le sublime morceau « L'au revoir » de Laurent Pérez Delmar. C'était L'Au Revoir de Laurence Pérez Delmar et vous êtes toujours dans Un Soir un Film sur Radio MDM. Pour le troisième film de notre sélection, j'ai décidé de vous parler d'un monument de l'animation française et mondiale, La Planète Sauvage. Sorti en 1973 et réalisé par René Laloux et Roland Topor, est un film d'animation et de SF français. Prenant place sur une autre planète que la Terre, Igam, où vivent des sortes de géants bleus de plusieurs dizaines de mètres, les dragues. Les dragues, ayant atteint une forme de technologie et de savoir presque parfaite, ne s'adonnent plus qu'au plaisir et à la méditation, pendant que leurs enfants jouent avec leurs animaux de compagnie, les hommes, OMS. Des humains prélevés d'un monde dévasté, et dont l'intelligence est revenue à celle de l'âge de pierre. Et c'est ainsi que nous suivons l'histoire de Terre. Un homme de luxe, c'est ainsi que les dragues appellent leurs animaux de compagnie, secouru par une jeune drague, Tiwa, qui décide de l'élever. À cause d'un dysfonctionnement d'une machine, Terre se met à avoir accès au savoir des dragues. Et aussitôt que la connaissance le touche, la soif de liberté vient avec elle. Et tel Prométhée qui vole le feu des dieux, Terre décide de s'enfuir et de lancer une révolte contre les dragues. Alors, ce film ne brille pas par son histoire très originale, mais plus par sa mise en scène complètement surréaliste et ses décors à la fois absurdes et grotesques, faisant parfois penser à des tableaux de Jérôme Bosch. En effet, le film se déroulant sur une autre planète, dans un autre système solaire, Roland Topor se permet une liberté créatrice totale, en créant une faune et une flore complètement psychédéliques que nous découvrons au même rythme que Terre. C'est un film vraiment étrange et bizarre, mais qui n'est pas repoussant. Personnellement, j'ai pris plaisir à découvrir ce monde extraterrestre surréaliste avec la superbe bande-son d'Alain Gourayet, arrangeur pour Serge Gainsbourg et Boris Vian, qui accompagne le voyage. Avant de vous laisser pour notre petite pause musicale, j'aimerais vous passer un extrait d'interview de René Laloux en 1973.
Donc en réalisant La Planète Sauvage, vous étiez d'accord sur ce point, que c'était un film autant pour les adultes que pour les enfants.
Moi je donnerais plutôt la priorité aux enfants, où les enfants sont encore des poètes. Si vous voulez, par rapport à Disney par exemple, je serais fier de faire un long métrage pour enfants dont l'enfant ne rougira pas quand il aura 30 ans, quand il sera devenu un adulte.
Voilà. C'était un petit tacle gratuit pour Disney, ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, le film est disponible à location gratuitement à la médiathèque du Marsan, si vous souhaitez le voir. Je vous encourage vivement à le regarder, c'est un chef-d'œuvre. C'était Générique 1 de Alain Gourayet et vous êtes toujours dans Un soir un film sur Radio MDM. Pour finir l'émission d'aujourd'hui, il est difficile de parler de films d'animation sans parler du génie du genre, Hayao Miyazaki. Chose que je vais faire bien entendu. Sauf que j'ai décidé de vous parler d'un chef-d'œuvre que je trouve particulièrement sous-coté, le film qui devait être son chant du cygne, Le Vent se lève. C'est un film mettant en scène la combinaison faite entre le roman éponyme de Tatsuo Hiro, livre autobiographique racontant les derniers moments entre Hiro et sa femme atteinte par la tuberculose dans la fin des années 30, et la vie de Jiro Horikoshi, ingénieur en aéronautique ayant conçu le design du célèbre avion de chasse japonais de la Seconde Guerre mondiale, le Mitsubishi A6M, plus connu sous le nom de Zero. Cette fusion un peu étrange nous raconte ainsi la vie de Jiro, jeune ingénieur rêveur et un peu naïf, pris dans la folie de la course à l'armement de l'Empire du Japon dans l'entre-deux-guerres. Et surtout, de sa rencontre et de son histoire d'amour avec sa femme, Naoko Satomi, atteinte par la tuberculose. En résulte ainsi une œuvre magnifique sur l'amour et la création. Jiro étant montré comme quelqu'un voulant seulement créer de beaux avions et non des armes de mort. À travers les histoires de ces deux personnes bien réelles et qu'il admire, Jiro Horikoshi et Tatsuo Hiro, Miyazaki nous parle de lui-même. En voyant sa filmographie, il est très facile de s'apercevoir de la passion que ce dernier porte pour l'aviation. Passion provenant de son père, qui était directeur d'une usine de fabrication de cockpits d'avions. Et aussi de la tendresse et l'amour qu'il avait pour sa mère, atteinte elle aussi par la tuberculose, comme la femme de Tatsuo Hiro dans son livre. Une chose que je vous ai délibérément cachée en début de présentation du film, c'est que le titre est tronqué. En effet, il s'agit d'une citation d'un vers de Paul Valéry qui dit, et c'est très important, « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». En ayant cette fin, on peut comprendre pourquoi le film était supposé être le dernier de Miyazaki. On comprend ainsi que le personnage de Jiro représente Miyazaki. Jiro dit dans le film que les avions sont comme des rêves. Et pour le réalisateur, les avions en question sont ses films. Ces derniers, à part pour Le vent se lève, étant bien plus ancrés dans le monde des rêves que dans la réalité. Et finalement, nous voyons Hayao se poser cette question à la fin de sa vie, le titre Le vent se lève pouvant être une métaphore de sa mort prochaine. Moi qui étant créé, ai-je vécu ? Je vous laisse regarder le film pour obtenir la réponse à cette question. J'aimerais noter aussi le travail fait sur les bruitages du film. Tout ce à partir de voix humaines, donnant un aspect très organique au son. Je vous laisse écouter comment Miyazaki symbolise un tremblement de terre avec seulement du son. Je trouve ça brillant. Avant de conclure avec la chanson Ikokigumo de Yumi Arai, qui accompagne le générique du film, je voudrais aussi rendre hommage à Joe Hisaishi, compositeur du dit film, et de l'ensemble de l'œuvre de Miyazaki, pour son travail absolument merveilleux, et je vous invite grandement à aller voir le concert hommage des 25 ans du studio Ghibli, où ce dernier dirige l'orchestre. Le film est disponible à la médiathèque du Marsan, et je vous encourage vivement à l'emprunter et le voir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et bonne séance.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Stop, putain, moteur!